Ils exercent un métier essentiel, un métier de passion, de passeur. Partons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui créent dans la cité des espaces de culture et de convivialité. Ils nous racontent leur parcours personnel, les valeurs qui les animent, les coulisses de leur profession. Écoutons-les, des libraires se livrent.
Portrait de libraire. Brice Torrecillas s'entretient avec Cécile Panou, librairie Tirelire, à Toulouse.
Bonjour Cécile Panou.
Bonjour Brice.
Merci de nous recevoir chez Tirelire. Tirelire avec un trait d'union pour qu'on voit bien le mot « lire » puisqu'il s'agit d'une librairie jeunesse. Alors, nous sommes au 24 rue de la Bourse, mais auparavant, on aurait pu être accueilli rue Pargaminière.
Tout à fait. La librairie Tirelire a ouvert en 1978 rue Pargaminière et restée là-bas 33 ans, si je ne me trompe pas.
Qui l'aviez créée ?
Non, pas du tout. Elle avait été créée par deux personnes, deux amis d'enfance, passionnés de littérature, qui un jour ont décidé d'ouvrir ensemble cette librairie. Et c'était le tout début des librairies spécialisées jeunesse. Puisque la toute première date de 1975, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment le démarrage de cette littérature spécialisée.
Il y avait Michel Sarlang et Marie-Claude Marché, c'est ça ?
Tout à fait.
Et alors, quand intervenez-vous, vous, dans cette histoire ?
Et moi, je suis arrivée chez Tirelire dans cette histoire-là en 2011. Suite à une passation entre Michel Sarlang et moi, puisqu'on a passé plusieurs mois ensemble, pendant lesquels elle m'a expliqué un peu toutes les ficelles du métier.
Vous nous les expliquez, ces ficelles du métier ?
Ce sont des secrets de libraire, ça. Les ficelles étant la chaîne du livre, les relations avec les fournisseurs, et puis toutes les spécificités qui sont représentées par la spécialité jeunesse. Puisque moi, j'estime qu'une librairie spécialisée jeunesse est une librairie généraliste, mais pour enfants. On a tous les rayons. On a du roman, des documentaires, des activités, enfin du bien-être, de l'album, de la bande dessinée. On a vraiment tous les rayons possibles.
Et jeunesse, ça signifie quel âge ?
Alors, on va de la naissance aux ados, aux grands ados.
Mais ça concerne également les adultes, je suppose. Là, j'ai déjà vu quelques personnes traîner dans les rayons et se régaler tout autant que s'ils avaient 15 ou 13 ans, ou 9.
Tout à fait. Alors, on a déjà un petit pied de nez, puisque nous, on a un coin des adultes. D'habitude, c'est un coin des enfants. Et en fait, la plupart des personnes qui viennent ici sont de toute façon des adultes, puisque ce sont des parents, des grands-parents, des amis qui cherchent des livres pour des enfants. Ils sont accompagnés ou pas par les enfants. Et puis, il y a quand même dans ce public-là des adultes qui viennent chercher des livres pour eux-mêmes, que ce soit de recherches professionnelles par les enseignants, des pédagogues en tout genre, ou bien par passion. Il y a des passionnés, des collectionneurs adultes qui viennent chercher de la littérature jeunesse pour eux-mêmes.
Et vous, votre passion, vous pouvez nous en parler ? Elle est née de quoi ?
Alors moi, ma petite histoire, je suis petite fille de libraire, puisque ma grand-mère tenait une librairie à Paris dans le 17e, une librairie généraliste. Et puis ensuite, j'ai été traînée dans les librairies petites, donc tout ce que je continue de proposer aujourd'hui, que ce soit Arnold Lobel, Léo Lioni, avec Petit Bleu, Petit Jaune, sont des lectures que j'ai eues moins petites, dans mon éducation, je ne sais pas comment.
Les classiques, on peut dire.
Les grands classiques, voilà. J'ai été baignée là-dedans toute petite. Ensuite, je n'ai pas du tout eu de formation en littérature jeunesse ou librairie, puisque j'ai fait une formation en marketing. J'ai travaillé dans un institut d'études de marché auparavant. Alors, toujours sur le secteur...
C'est moins de l'amour.
Voilà, beaucoup moins. C'était toujours sur le secteur de l'enfance. C'était un peu le hasard au départ. Et puis, les choses font qu'un jour, j'ai voulu absolument me reconvertir. Puis, c'est surtout que je suis arrivée à Toulouse. À Toulouse, il n'y avait pas le métier que je faisais à Paris. Et du coup, en cherchant une reconversion, il y a cette opportunité de reprise qui s'est présentée. Je me suis posé la question en disant que c'est quand même un gros bouleversement que de reprendre un commerce avec ce que ça représente comme, comme contrainte dans une vie personnelle. Et puis, comme c'était quand même un doux rêve de tenir une librairie, j'ai dit « allez, j'y vais ».
Et le côté et voilà. Jeunesse, vous l'aviez laissé de côté Vous lisiez à cette époque-là déjà des livres jeunesse ou...
Non, j'en lisais plus. Ça, j'en avais lu beaucoup auparavant, ouais. Mais non, j'en lisais plus du tout. Après, si, avec parce que j'ai des enfants, donc j'avais recommencé à me plonger dans la littérature jeunesse avec, avec mes enfants, mais j'étais pas au cœur de cette littérature-là. Et c'est là où la passation avec Michel Sarlang a été riche, voilà, puisque toutes les semaines, elle me donnait des piles et des piles de livres d'incontournables que je vais absolument connaître pour reprendre la librairie. Parce que quand on est spécialisé jeunesse, il faut vraiment avoir une certaine culture de cette littérature-là. Il m'en manquait un morceau et du coup, voilà, elle m'a aidée à combler ça au fur et à mesure. Puis après, ça devient du quotidien.
Quel livre ou quel album mettriez-vous en avant de manière générale? Pas attaché à l'actualité, mais...
Alors, dans les grands classiques, je reprends les Arnold Lobel, parce que ça, pour moi, c'est le cœur de l'enfance. Il a quelque chose d'intemporel et ça fonctionne avec tous les lecteurs.
Décrivez pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Ce sont des textes très courts qu'il propose. C'est voilà, des petites histoires qui durent quelques pages, mais toujours avec des illustrations... elles sont assez classiques, elles sont un peu pastel, mais il y a quelque chose de vraiment tendre dans ces illustrations. Et voilà, ça a quelque chose de rassurant. Du coup, pour des petits lecteurs, quand ils démarrent la lecture, c'est pas très compliqué à lire, mais ça a beaucoup de sens, c'est très poétique. Et voilà, c'est des lectures qui marquent un petit peu à vie. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, il y a des auteurs qu'on aime conseiller, qui sont vraiment baignés de cette littérature, enfin de cette proposition, de cet auteur. Et on le retrouve dans ce qu'ils produisent, enfin dans leurs albums aujourd'hui.
Ouais. Moi, je voudrais avoir votre regard sur la littérature jeunesse contemporaine. Je lisais justement l'extrait d'une interview de Michel Sarlang qui disait « Le monde a changé, il va plus vite, l'écriture aussi ». Désormais, les héros doivent vivre plus fort et l'auteur réduire les éléments descriptifs. Est-ce qu'on ne peut pas trouver ça tristouné ou au contraire se réjouir que les auteurs doivent s'adapter et savent s'adapter à l'époque?
Alors, évidemment, ça a quelque chose d'un peu triste de ne pas pouvoir se plonger dans des descriptions, des ambiances et tout cela. Après,
vous l'observez déjà,
oui.
ce changement?
Oui, complètement. Complètement. C'est-à-dire que il y a longtemps, dans les classiques, on avait des Joseph Kessel avec le lion, des choses comme ça, qui sont quand même assez descriptives.
Pour les ados, là, on est...
Oui, fin du primaire. Hein. À partir d'une dizaine d'années, on peut lire ça. Là, c'est...
Ça passe plus.
C'est vraiment pour des lecteurs aguerris, ce type de lecture-là. Aujourd'hui, le problème qu'on a aussi, c'est que la génération de nos enfants, c'est une génération qui est plongée dans l'image, qui est plongée dans... Il faut aller vite. Enfin, nous-mêmes, hein, tout va beaucoup plus vite. On est à l'ère du numérique, on est à l'ère de l'immédiat. Donc, démarrer un roman... qui va pendant trois chapitres présenter le décor, la maison, la forêt, ça va tomber des mains de la plupart des enfants. Aujourd'hui, il faut vraiment que dès le premier paragraphe, on soit dans l'action. Enfin, voilà, il faut être vraiment dedans. Après, ça n'empêche pas des plumes magnifiques. Timothée de Fombelle, évidemment.
Oui. Alma.
Alma, mais pour plus jeune, il y a Toby Lowndes. Il démarre son tout premier chapitre de Toby Lowndes. C'est une course-poursuite en haut d'un arbre. Et ça démarre vraiment à 100 à l'heure. Et du coup, ça capte les lecteurs tout de suite. Et après, il rentrera dans... Voilà, il a inversé la façon de rentrer dans ses textes. Et du coup, voilà, ça revient. Il faut quand même que ça aille vite. On n'est plus dans les mêmes phrasés que ce qu'on connaissait. Il y a quelque chose qui a changé.
Une autre thématique qui apparaît régulièrement quand on parle de littérature jeunesse, c'est celle de la censure, ou plutôt des sujets plus ou moins osés qu'on peut proposer. Quel est votre, là encore, votre regard là-dessus ?
Ah, la censure, c'est un grand, grand sujet. Ça fait un moment qu'on en parle. Et le... Alors, le... Quand je... Enfin, on est un peu saturé de toute cette censure, mais la censure dans tous les sens en fait, parce que au fur et à mesure, on va aller vers des choses qui sont de plus en plus lisses. Tout le monde doit penser la même chose, tout le monde doit critiquer la même chose, tolérer la même chose. On va vers un consensus qui pour nous est un peu insupportable. Et justement, ce qu'on espère à travers la littérature, au sens large. Mmh. C'est pouvoir avoir un peu toutes les diversités. Et si on suit cette censure, et on la perd.
Tout à fait.
Elle est nécessaire.
Vous l'observez ça dans les livres que vous voyez arriver, avec des auteurs qui se permettent de moins en moins de choses ?
Il y a des choses. Alors, il y a des livres qui existaient il y a une vingtaine d'années. Ils pourraient plus être écrits de la même façon.
Ah oui, sur quel thème, par exemple ?
Sur le racisme, notamment. Voilà. Après, tant mieux, les choses ont évolué, mais c'est vrai que ça fait poser beaucoup de questions, en fait. Nous, on cherche un maximum de tolérance sur tous les sujets, mais on se pose la question de savoir comment on la fait passer.
Tout à fait. Parlez-nous de la vie de votre librairie en général. Alors, quand on pénètre, j'ai vu, il y a une cabane à lire, il y a ensuite une exposition dont vous allez nous dire quelques mots. J'ai bien l'impression que ce n'est pas simplement un lieu de lecture, de recueillement, votre librairie, mais tout au contraire, un lieu de vie.
Alors oui, dans la librairie, on trouve tous les rayons dont je parlais tout à l'heure. On a, dans ce nouveau lieu, puisqu'on a déménagé ici en 2017, dans un lieu plus grand que celui où on était auparavant.
On se cognait au mur, c'est ça ?
Quand nous étions rue Pargaminière, et quand on faisait des animations, c'était toujours au milieu des rayons. Il fallait tout le temps pousser des meubles. On avait un espace un peu réduit. Et nous, cette partie animation, enfin, moi, elle me tient beaucoup à cœur. Que ce soit de la rencontre d'auteurs, de la mise en place d'ateliers, des accueils de classe, très, très diverses et variées, en n'oubliant pas que notre public, il va des bébés jusqu'aux ados. Donc, on a un peu tous les publics qui viennent. Et il est arrivé un moment rue Pargaminière où, de toute façon, cette place-là, on ne l'avait pas. Puis, pour d'autres raisons aussi, il fallait qu'on déménage. Donc, en arrivant ici, il était important d'avoir un lieu, un espace supplémentaire qu'on a appelé le labo. Puisque le labo de mots, c'est surtout un lieu dans lequel on peut faire plein d'expériences. Voilà, l'idée, c'est de faire de l'expérimentation littéraire jeunesse. Donc, on s'est dit, on va l'appeler le labo.
Expliquez-nous plus en détail.
Et dans le sens où il y aura encore plein de toutes sortes d'animations qui sont vraiment soit tournées autour du livre à proprement parler, donc de la lecture, de la présentation d'ouvrages comme ça, mais aussi on a accueilli des cours de méditation ou encore de yoga pour des plus petits.
La fameuse concentration.
Concentration,
c'est ça ?
Mais qui, dans les séances proposées par les intervenantes, amenait toujours un livre. Moi, je dis à tous ceux qui viennent, je leur dis, OK, pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut quand même qu'à un moment, ça soit satellite autour du livre. Quand on fait du loisir créatif, ça va être autour de certains ouvrages, ou autrement autour de techniques d'illustrateurs, ou bien... Mais il faut toujours que ce soit autour d'un livre, de façon plus ou moins éloignée, et ça donne lieu à plein de choses différentes.
Des moments marquants parmi ces ateliers ou ces animations ?
Alors, on a fêté les 40 ans de la librairie en 2018.
Oui, c'est ça.
Et pendant cette période-là, pendant 4 semaines, on a fait une sorte de festival. On avait des animations tous les samedis, pendant 4 samedis, c'était des animations tout au long de la journée. Donc on a reçu, je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'était une vingtaine d'auteurs en 4 semaines. Et ça, ça a été très, très riche. C'était, le lieu ne désemplissait pas et chacun arrivait avec, avec une proposition différente. On a accueilli Soledad Bravi qui organisait un Pictionary avec des enfants. Soledad Bravi qu'on voit dans la presse toutes les semaines. David Salah a fait faire une grande, grande fresque aux enfants en direct sur les murs. On avait tendu du papier partout, de la peinture. Enfin, c'était voilà, grand moment aussi. Qu'est-ce qu'on démontre? On a eu une très belle rencontre avec Sophie Nanteuil, Baptiste Beaulieu, Zelda Zonk et l'association Arc-en-Ciel. C'était pour le lancement d'un livre, le premier documentaire sur toutes les notions LGBT+.
Oui.
Voilà, donc ça c'était un moment très très riche. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai plein la tête, mais je ne pourrais pas tous les citer et dire lesquels sont les plus marquants, je ne sais pas.
Non, mais c'est
exactement.
Déjà pas mal comme mise en bouche. Mmh. Parlez-nous du décor actuel, de ce qu'on peut observer en ce moment.
Alors, tout ce décor, on l'a imaginé en arrivant dans ce nouveau lieu. En fait, moi, je me suis mise en relation avec un menuisier et main dans la main, on a réfléchi à tous les rayons. Voilà, il m'a fait des propositions, j'avais fait mes demandes, à force de discussion, les meubles ont été dessinés un par un. L'idée, c'est de pouvoir présenter un maximum de livres, que le mobilier soit pas trop haut non plus, puisqu'on a des enfants. Il ne faut pas qu'ils soient trop bas non plus, parce qu'on n'a pas non plus envie qu'ils passent leur vie à tout décharger, tout vider.
C'est normal.
Mais voilà, c'était vraiment un lieu où on pouvait voir le maximum de choses. Alors,
et il est réparti comment ce lieu, en fonction des âges ou alors des catégories comme...
C'est des catégories.
Ouais.
Voilà, alors on raisonne un petit peu par âge. Donc on a mis le monde de la toute petite enfance complètement à part avec un rayon qui lui est dédié. Et après, c'est vraiment par genre, par rayon. Mm-hmm. Et dans les rayons, on a des catégories d'âge.
On voit ce qui se détache, forcément, on le voit. Qu'est-ce qui se vend le plus?
Alors, chez nous, c'est l'album relié, l'album illustré. Ça, c'est vraiment notre cœur de proposition. Ensuite, un rayon qui explose depuis quelques années, qui était vraiment tout petit au départ. On avait deux petits bacs de rien du tout quand j'ai repris en 2011. C'est la BD.
J'allais parler des mangas.
Les mangas, c'est un rayon qu'on a ouvert il y a 6 mois.
D'accord.
On n'avait pas du tout de manga parce que c'est encore un genre à part. Et puis quand on se lance dans le manga, ça prend beaucoup de place. Donc là, on a, voilà, ça a démarré depuis le premier confinement, en fait, le printemps 2020, où les demandes ont commencé à se faire.
Comment ça s'est passé ce confinement? On ne veut pas y passer la nuit, mais dites-moi quand même.
Alors, ce confinement, nous, au départ, on a fermé comme tout le monde, hein, la fermeture administrative.
Obligé,
ouais. Et puis, ce qui s'est passé d'abord, c'est juste la veille de la toute fermeture, j'ai livré un nombre de familles incalculable. Express, mais on était là, on a dit on va tout faire pour offrir un maximum de choses, puisqu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On avait misé sur 5 semaines, ça a duré un tout petit peu plus.
Ouais.
Et puis, au bout de 2-3 semaines où on était complètement fermé, on recevait des mails à peu près tous les jours. On recevait des mails tous les jours de demandes de parents qui disaient mais comment on fait? Moi je veux pas commander sur Amazon, je veux pas, je veux mmh. voilà que
et moi et du coup, vous avez
en fait j'ai pris les demandes et j'ai fait des livraisons.
D'accord.
Pendant un mois et demi. C'est okay. Tous les jours et je faisais quartier par quartier. En fait, j'ai balayé ça c'était le premier confinement. Ça fait que ça me prenait un temps fou parce que j'étais toute seule à ce moment-là à la librairie alors que d'habitude nous sommes 3. Et c'était que par mail. Donc, du conseil par mail, un par un, et préparer tout ça. Enfin, ouais. Franchement.
Faramineux.
Voilà, et tous ceux qui sont sortis en pleine forme du confinement, tant mieux pour eux. j'ai découvert le métier de livreur aussi. Enfin, ça a été assez dense, mais ça a tissé des liens très, très forts avec les familles. Parce que toutes les familles isolées, surtout ceux avec des petits-enfants, ceux qui étaient coincés chez eux, dans des petits appartements avec des enfants de 3-5 ans, quand ils voyaient arriver des choses. Voilà. Moi, je rajoutais plein de de jeux, de choses d'activité dans les sacs.
Parce la mère parce que... Noël.
Mais non, mais c'était surtout, ça me faisait vraiment mal au cœur.
Bien sûr. Pour en revenir au décor, j'ai vu sur la cabane à lire plein de petites photos venues de tous les pays.
Oui, alors, puis j'avais pas fini avec mon décor.
Ben,
c'est que avec le. Donc, quand on a, avec le menuisier, travaillé tout ça, je lui avais dit oh, si tu pourrais pas me faire une cabane quand même, ça fait longtemps que j'aurais une cabane. Et un jour, il est revenu, il m'a dit écoute, avec toutes les chutes de bois de tous les meubles, en fait, je vais pouvoir te faire ta cabane. Et il a réussi quelque chose de très grand, puisqu'on peut se tenir debout. Et quand elle est ouverte, elle a vraiment un succès.
C'est-à-dire les gamins prennent le livre et vont le lire dans la cabane, c'est ça ?
En fait, il y a même une caisse de livres dédiée aux lectures dans la cabane.
D'accord.
Et il y en a qui arrivent en courant, ils filent dedans pour s'installer et lire. C'est devenu un petit lieu refuge, comme on peut imaginer dans des jardins. Et oui, on a décoré aussi avec ces photos. Alors... un peu à la Amélie Poulain, on a notre tote bag tirelire qui voyage à travers le monde. Mmh. Alors dans l'équipe, on est plutôt globe-trotteuses toutes les trois.
Alors justement, pardonnez-moi, je vais vous faire une digression. Mmh. L'équipe de trois, il faut la présenter malgré
oui.
tout. Il y a Cécile Panou, nous sommes d'accord, mais les deux autres.
Et les deux autres, Alice Ménard et Lucille Brioté. Donc Alice est là depuis bientôt 4 ans et Lucille 3 ans. On est totalement complémentaires puisqu'on a chacune nos goûts, nos envies, nos façons de... nos appétences. Et nous faisons totalement confiance en lecture, ce qui est important aussi parce qu'on essaye de lire un maximum de livres. Mais on aura, on n'a pas vraiment le temps de tout lire. Et voilà, c'est vraiment un vrai travail d'équipe, toutes les trois ensemble.
Et donc, on en revient à ces photos.
Et donc,
chacune,
on part toujours avec nos sacs sur l'épaule. Et où qu'on soit, on prend des photos des lieux où on est. Et ça, comme ça a séduit un certain nombre de nos clients et d'auteurs aussi.
Ils jouent le jeu
et je vais quand même citer Édouard Manceau qui ne peut pas s'empêcher de prendre des photos de notre sac à travers tous les lieux où il se rend puisqu'il fait des rencontres dans tous les lycées français du monde. Donc ça c'est des petits moments sympas de partage.
J'ai pu, dans mes recherches, découvrir que vous étiez une librairie sorcière. Alors ça ne m'a pas fait peur, mais je voudrais savoir ce qui se passe derrière ce mot.
Alors, une sorcière, c'est une librairie spécialisée jeunesse qui fait partie de cette association Les Librairies Sorcières, qui est née en 81. Et c'est important de la citer puisque Michel Sardang fait partie de l'équipe qui a créé cette association il y a plus de 30 ans. Pour être une librairie sorcière, il faut respecter une certaine éthique dans la qualité des propositions de livres qu'on fait dans nos choix d'ouvrages. Après, c'était une librairie... c'est comme toutes les associations de librairies, on se rend service, on s'échange des tuyaux, on a souvent des demandes de nos clients, de nos lecteurs qui sont assez similaires. Donc, on va se s'aider en complétant des bibliographies, en faisant des recherches thématiques. Et on se retrouve plusieurs fois par an. Notamment autour du Salon de Montreuil. On tient des stands d'éditeurs sur le Salon de Montreuil ensemble, entre librairies sorcières. Et on rédige un magazine qui s'appelle le magazine Citrouille, qui sort trois fois par an, qui est très riche, très, très bien écrit, dans lequel on va avoir des critiques d'ouvrages, mais aussi des entretiens avec des auteurs, des présentations d'éditeurs. C'est un magazine qui était un peu fouillé et dont la maquette a changé il n'y a pas longtemps et est devenue très, très attrayante.
Terminons en laissant place à ceux qui le méritent le plus ici, les enfants. Quelles sont les relations qui se nouent entre les enfants et les libraires ?
Ce sont des relations assez riches puisque d'abord on se donne des conseils. Ce qui est le plus savoureux pour nous, c'est quand les enfants reviennent en disant « mais j'ai adoré ce que vous m'avez proposé ». Donc ça, c'est vraiment notre récompense. Et les liens sont très très forts puisque parfois, quand on lit certains romans ou certains albums, on va penser à certains enfants. Et on se dit « il va falloir que je pense à lui proposer parce que ça, vraiment, ça va lui plaire ». Donc vraiment, c'est une relation assez particulière et c'est touchant. Et ce qui est très touchant, c'est quand, moi, ça va faire 10 ans que j'ai repris cette librairie. Il y a des enfants que j'ai connus tout petits et qui viennent encore demander
de rayon
qui changent de rayon et qui vont continuer à nous demander des conseils. Et puis d'autres qui étaient déjà un petit peu grands quand je les ai connus, qui sont plus forcément à Toulouse, mais quand ils reviennent à Toulouse, ils viennent nous voir. Et ça fait vraiment... c'est ce qu'il y a de plus précieux, en fait, dans nos relations avec les enfants.
C'est parfait. Merci, Cécile Panou. Donc, nous sommes au Tirelire, ou à la librairie Tirelire, 24 rue de la Bourse à Toulouse. Merci encore.
Merci, Brice.
Portrait de libraire. Un podcast du Marathon des mots, avec le soutien de Toulouse Métropole.